La première,
17h30, 18h le dimanche.
Et Dieu dans tout ça,
Pascal Claude.
Comment ça va dans le ciel? Voici les dernières nouvelles. Et nous voilà à 14 années-lumière d'ici-bas. Wolf 1061C a été repéré ces jours-ci. Wolf 1061C, c'est le prénom, le petit nom de code d'une nouvelle exoplanète. Elle ressemblerait à la Terre. Il s'agirait d'une super Terre, affirment les scientifiques, et du vivant pourrait s'y développer. Alors, allons-nous y localiser des petits hommes verts et leurs soucoupes volantes sagement garées à proximité? Eh bien, patience, parce que les recherches ne font que commencer. Et si nous n'étions pas seuls dans l'univers? La question se pose depuis des millénaires. Mais qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que ça changerait en particulier pour les religions? Les croyances, les textes sacrés seraient-ils bousculés, voire balayés? Qui oserait encore dire que Dieu a créé l'homme uniquement à son image? Et les extraterrestres, il les aurait oubliés? Pour tenter d'y voir plus clair, nous allons vous proposer ce soir une expérience théologique unique. Soyez les bienvenus dans Et Dieu dans tout ça.
Le magazine des philosophies et des religions. Sur la première.
Belle fin d'après-midi à vous. Bonsoir Jacques Arnoux.
Bonsoir.
Vous êtes...
Et bonsoir aux habitants de Wolf, puisque dans 14 années, oui, nous aurons votre message.
Vous êtes donc théologien, ancien dominicain, chargé de mission en France au Centre National d'Études Spatiales. Et vous publiez cette semaine « Turbulence dans l'univers, Dieu, les extraterrestres et nous ». Avant de nous intéresser aux extraterrestres et à votre expérience de pensée théologique, faisons connaissance avec vous. Pourquoi ne faites-vous plus partie d'une communauté de frères dominicains ?
Ah bien ça, ce sont les aléas des histoires personnelles. Après 25 ans de vie de prêcheur, hein, et une vie heureuse, eh bien un choix personnel, une rencontre amoureuse m'a fait changer de voie parce que je ne voulais simplement pas vivre deux vies en même temps et j'ai fait le choix de quitter en toute fraternité ces frères prêcheurs que je continue à considérer comme des frères.
Ça signifie que l'amour de Dieu n'était plus suffisant pour vous ?
Non, pas du tout. Simplement que... nous savons bien que nous pouvons avoir dans nos vies des rencontres qui nous bousculent. Mmh. Et à un moment donné, j'ai ce qui n'a pas été très simple d'ailleurs, j'ai dû faire le choix entre ces deux formes d'engagement. Mais j'allais dire... L'engagement par rapport à Dieu n'a pas profondément changé.
Vous êtes donc chargé de mission au Centre National d'Études Spatiales en France. Vous avez une formation d'ingénieur agronome. Vous étiez plus tourné vers le sol que vers le ciel, si j'ose dire. Alors, comment avez-vous obtenu ce poste ?
Ça, c'est aussi les aléas de la vie. Vous voyez, comme ce que nous venons de raconter à l'instant, des rencontres, des surprises, des gens surtout qui m'ont fait confiance et qui ont peut-être été capables un jour de me dire qu'est-ce que vous nous proposez à nous, gens de l'espace ? Je venais les rencontrer pour leur dire que je trouvais que c'était intéressant ce qu'ils faisaient eux. Et ils m'ont demandé ce que je pouvais apporter. Et n'étant pas du tout ingénieur en astronautique, en revanche, j'aurais dit, mais ce serait intéressant de s'interroger sur la dimension éthique de vos activités. C'est-à-dire le pourquoi, le comment, les conséquences de toutes ces activités spatiales qui, aujourd'hui, occupent une telle place dans nos sociétés. Mmh. Et les responsables de l'agence spatiale de l'époque, et puis ceux qui les ont suivis, m'ont dit, banco, allons-y.
Jacques Arnoux, où est la ligne rouge que vous tracez entre science et religion, raison et foi ?
Il ne faut surtout pas tracer de ligne rouge. Il faut plutôt se tracer se donner un but et une destination, c'est-à-dire celle de pouvoir petit à petit dialoguer en toute simplicité, en toute raison, en toute honnêteté entre tout ce que la science nous apprend et puis tout ce que la religion, je dirais davantage encore, la foi peut nous interroger en permanence. Il ne s'agit pas de poser des lignes rouges parce que la ligne rouge, ça risque de nous entraîner à la schizophrénie. La schizophrénie est une maladie grave dont nous devons absolument essayer d'échapper, en particulier dans le domaine des religions et de ses liens avec la société.
Vous êtes chrétien et dans votre nouvel essai, vous évoquez à quelques reprises votre foi. Vous dites que vous êtes un partisan d'une foi qui s'étonne plutôt que d'une foi qui s'émerveille. Quelle est la nuance, Jacques Arnoux ?
Oui, j'aime bien introduire cette nuance. D'ailleurs, je l'ai introduite assez récemment dans ma manière de penser, puis ensuite de l'exprimer. Bien sûr que je suis un partisan de l'émerveillement. Et quand on a la chance de côtoyer au quotidien des gens qui regardent vers les étoiles, qui nous fournissent des images fantastiques aussi bien du ciel d'ailleurs que de la Terre, le premier choc est celui de l'émerveillement. Mais attention, l'émerveillement peut aussi être tellement fort que nous sommes éblouis et que nous ne voyons pas nécessairement toute la profondeur de la réalité.
L'émerveillement qui peut aveugler, c'est ça.
Voilà, l'étonnement porte une part d'émerveillement, mais a aussi une part d'interrogation vers nous-mêmes. C'est-à-dire que par l'émerveillement, je sors de mon quotidien, de ma réalité immédiate, mais par l'étonnement qui doit suivre, je m'interroge en quoi cette expérience particulière peut venir me concerner moi-même. C'est ça que je crois vraiment essentiel. C'est-à-dire, c'est pas de l'égoïsme, c'est pas de l'anthropocentrisme, il n'y aurait que moi d'important, mais comment ce que je vis vient me toucher profondément.
Vous écrivez encore, aussi effrayant et fascinant qu'il puisse parfois paraître, le sacré est nécessaire à l'être humain comme l'horizon l'est au voyageur. Qu'est-ce que vous entendez précisément par sacré et pourquoi est-ce que ce sacré est nécessaire selon vous ?
Eh bien, ça vient compléter ce que vous disiez tout à l'heure sur la ligne rouge. C'est-à-dire que bien souvent, le sacré est présenté comme une ligne rouge infranchissable. Et nous avons besoin, tous, quel que soit notre âge, quelle que soit notre condition, de poser un certain nombre de limites par rapport à ce que nous pouvons faire ou ne pas faire. C'est d'abord des limites physiques, des limites physiologiques liées à notre, voilà, ce que nous sommes, à l'âge que nous avons, à l'intelligence ou aux capacités physiques, etc. Et c'est vrai que les sociétés ont fait la même chose, se sont posées des limites et continuent à se poser des limites. C'est absolument indispensable. Et le sacré est une forme de limite, alors avec des caractères plus ou moins religieux ou même profanes, puisque on va dire quand la vie est sacrée ou certaines conditions ou certains états de vie sont sacrés, c'est pas nécessairement pour des raisons religieuses, ça peut être aussi simplement des choix de société. Pour autant, c'est un horizon au sens où nous en avons besoin, mais nous devons aussi être prêts à repousser ces limites, ou voire même à les franchir. Pour moi, quitte à sembler peut-être un peu étrange dans cette définition, le sacré, il est par définition possible de le transgresser. Parce que si il était parfaitement impossible de le transgresser, si c'était un mur totalement infranchissable, à la limite, ce qui est derrière ne m'intéresserait pas, puisque je ne pourrais jamais y aller. Si je dis Dieu est quelque chose de sacré, mais que ce mur est tellement infranchissable qu'au fond, Dieu, je ne pourrais jamais l'approcher, ben, en quoi ça peut m'intéresser, puisque c'est quelque chose qui est tellement loin, enfin, inatteignable, qu'à la limite, n'existe même pas. Il ne peut pas, en tout cas, concerner ma propre existence. Donc, on voit bien que dans
donc
la
vous
manière...
Vous espérez donc... un jour, à un moment dans votre vie, vous approcher, vous rapprocher de Dieu ?
Mais comme tout un chacun. Comme nous avons tous envie de... par rapport à...
Comme les croyants, en tout cas.
Comme les croyants, mais nous avons tous des choses qui nous sont sacrées. La vie est sacrée, mais nous savons qu'un jour, nous allons la quitter. Nous allons franchir cette limite. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Nous nous posons tous la question. L'amitié, c'est sacré, l'amour, c'est sacré, et c'est en même temps une chose que nous voulons expérimenter, et quitte à faire des gestes fous, quitte quelque part à transgresser les limites que nous nous sommes données aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons besoin de dire qu'un certain nombre de choses, de réalités sont sacrées, elles seront d'autant plus sacrées que nous saurons qu'à un certain moment et avec une certaine action, nous pourrons les approcher.
Jacques Arnoux, vous êtes avec nous ce soir jusqu'à 18h. Écoutez, regardez autour de vous. Ça y est, les extraterrestres sont là.
Personnellement, je crois et je suis même intimement persuadé que des civilisations évoluées existent quelque part dans l'immensité de l'univers qui nous entoure.
Et Dieu dans tout ça ?
Pensez un peu aux institutions religieuses. Qu'adviendrait-il si tout d'un coup tout le monde savait ?
Et Dieu dans tout ça ?
17h30, 18h.
Sur la première.
À votre avis, la découverte d'une vie extraterrestre entraînerait-elle la fin des religions ? Voilà, Jacques Arnoux, manifestement, l'une des questions que l'on vous pose très très souvent lors de vos interventions en public.
Oui, ou même dans parfois des collègues, hein, ouais. Des collègues de l'agence spatiale qui sont eux-mêmes engagés dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'astrobiologie, donc la recherche de vie extraterrestre, et puis sans même parler d'ailleurs d'intelligence extraterrestre. Et un certain nombre d'entre eux, que ce soit en France mais aussi à l'étranger, sont persuadés que ce serait la fin des religions, et je suis vraiment persuadé du contraire. Alors, ça ne veut pas dire que les religions telles que nous les connaissons, telles que nous les vivons aujourd'hui, dans leurs convictions, dans leur fondement, ne seraient pas profondément bousculées. Mais l'attitude religieuse qui est quand même une propriété de l'homme, quitte à la refuser d'ailleurs, mais c'est une manière aussi de se placer par rapport aux religions, cette attitude-là, elle ne disparaîtrait certainement pas.
Mmh. Oui, vous parlez, vous, dans votre essai de renouvellement, d'une conversion au niveau des religions ?
Bien sûr, parce que, enfin, alors évidemment, ça dépend des religions, et là, j'en parle un peu dans mon ouvrage, en fonction du type de religion, en fonction du rapport que les religions peuvent avoir à la fois à l'ensemble de ce qu'on appelle aujourd'hui l'univers, mais aussi à la place de l'être humain dans l'univers, en fonction de leur rapport au temps, quelle échelle de temps pensent-elles, eh bien, c'est sûr que la découverte scientifique, avec des preuves scientifiques de vie extraterrestre, et encore plus peut-être d'intelligence extraterrestre, ça viendrait notablement les bousculer. Quand on pense aux trois monothéismes que nous connaissons bien, christianisme, judaïsme, l'islam, avec leur fort anthropocentrisme, c'est-à-dire que le premier souci, c'est quand même la personne humaine. Mmh. Il est clair que si brutalement nous découvrions, une fois encore, à 14 années-lumière, sur cette exoplanète, des êtres intelligents qui nous ressembleraient plus ou moins, mais en tout cas, voilà, qui sont capables de penser, d'élaborer des théories, d'avoir une culture, de communiquer entre eux, peut-être de communiquer avec nous, peut-être d'avoir eux-mêmes des dieux, enfin, je ne sais pas. Ce serait quand même assez troublant, parce que brutalement, on revivrait à une autre échelle des choses qui ont été vécues au moment de la découverte par l'ancien monde, ce qu'on va appeler le nouveau monde.
Mais c'est vrai que, imaginons, si les extraterrestres avaient leur propre système religieux et philosophique, il pourrait y avoir une sorte de concurrence, des fusions et peut-être là quand même des disparitions, non, de religion.
Oui, mais une fois encore, regardez ce qui s'est passé dans l'histoire humaine lorsque, effectivement, des cultures se sont découvertes, entre guillemets, se sont échangées ou, au contraire, ont vu des oppositions entre leurs propres convictions philosophiques, théologiques. Ça n'a pas toujours été très facile, c'est sûr, mais justement, c'est à partir de là que nous pouvons peut-être aujourd'hui, fort de cette expérience, de ces expériences heureuses ou malheureuses, eh bien, nous interroger sur ce que nous pourrions faire, même si c'est, comme je dis, une expérience de pensée.
Au sens où
ce n'est pas ce qui va se passer aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous parlons là, il n'y a pas de preuve de cette vie-là, mais nous pouvons quand même y penser. Et y pensant, je crois aussi que nous nous préparons, ou nous continuons aussi à nous préparer à nous rencontrer entre humains. Il ne faut jamais oublier que lorsque nous nous projetons dans l'espace, un peu loin de notre quotidien, nous ne quittons pas pour autant ce quotidien, parce que nous y revenons, et tout ce que nous avons appris dans cet ailleurs, un peu théorique, nous pouvons l'appliquer aussi à nos propres manières de gérer les uns par rapport aux autres.
Regarder vers le ciel nous permet plus que jamais d'être terre à terre.
Mais bien sûr. Et ça, c'est une expérience que je fais à la fois dans mon travail très technique, j'allais dire, de monsieur éthique au CNES, et puis ce que nous pouvons aussi faire, chacun d'entre nous d'ailleurs, dans notre quotidien. D'une certaine manière, le premier extraterrestre, c'est d'abord mon voisin. Comme dit Jean-Claude Carrière, des extraterrestres, je n'en ai pas encore rencontré, des terrestres extra, oui. Donc, essayons de faire entre nous, d'être entre nous des terrestres extra.
Dans votre livre, vous proposez un tour d'horizon des religions face à la question extraterrestre. Et manifestement, ce sont les religions dites orientales qui accepteraient le plus facilement l'existence possible de vie extraterrestre.
On peut dire ça, effectivement, parce que nous le savons bien, elles ont justement une approche du temps et de l'espace qui intègre a priori des échelles beaucoup plus grandes que celles dont nous avons l'habitude dans les religions que je citais tout à l'heure, dites du livre. Mais pour autant, quand des croyants musulmans, chrétiens, juifs sont interrogés sur cette question-là, eh bien, il est possible de constater que le bouleversement n'est pas si catastrophique, si je puis dire, que cela. C'est en fait davantage lié finalement moins à la religion qu'à l'attitude que le croyant a à l'égard de sa religion. Je veux dire par là que des croyants très fondamentalistes, au sens qu'ils sont très accrochés au pied de la lettre, aux dogmes, aux fondamentaux, et qui ont, donc évidemment vont être, à la limite, quelle que soit leur religion, tout de même un peu bousculés par l'idée qu'il puisse y avoir des extraterrestres. Et s'ils ont une approche plus ouverte, sans dire pour autant plus progressiste d'ailleurs, il semble que là, quelle que soit leur appartenance religieuse, il y a une certaine acceptation, ou même une acceptation certaine, de cette possibilité. Et c'est ce que j'ai aussi montré dans cet ouvrage, à travers une espèce de panorama historique pour montrer comment, en particulier dans la tradition chrétienne, eh bien, cette question des extraterrestres, qu'on appelait auparavant la pluralité des mondes, est une question qui a été abordée depuis très longtemps et par rapport à laquelle des positions extrêmement ouvertes, je veux dire positives, de possibilités de vie extraterrestre ont été acceptées depuis très longtemps, depuis au moins le Moyen-Âge. Ouais. Donc, ça veut dire par là que à mes contemporains qui me disent, en particulier la foi chrétienne, disparaîtrait immédiatement si on trouvait des extraterrestres, je leur réponds quand même que l'évêque de Paris, en 1277, a parfaitement admis, sans pour autant les baptiser, l'existence d'extraterrestres.
Ouais, et vous précisez d'ailleurs que manifestement, seul le monde chrétien paraît s'être véritablement intéressé à la question extraterrestre au fil des derniers siècles.
Oui, parce que c'est lié aussi au développement des sciences en Occident. C'est quand même l'Occident qui a connu au XVIIe siècle une première révolution scientifique et qui précisément était associée à l'émergence de l'astronomie moderne. Et l'astronomie moderne pose en fait la question de la pluralité des mondes avec des éléments tout à fait nouveaux. Donc c'est bien l'Occident qui a été le premier lieu culturel impacté par cette révolution scientifique et le fait que l'on puisse effectivement imaginer scientifiquement l'existence de vie extraterrestre. Donc les religions de cet Occident étant les premières à être bousculées, au moins en théorie, par cette hypothèse.
Tiens, Jacques Arnoux, je me demandais, est-ce que ce n'est pas Dieu, finalement, qui serait l'extraterrestre numéro un pour le croyant ?
Alors, il est le numéro un ou l'extra-extraterrestre. Hein, c'est ça qui est assez intéressant. C'est qu'au fond, à travers cette question de l'extraterrestre, vous avez parfaitement raison. C'est quelle image les terrestres se font-ils de Dieu ? Dans votre introduction, vous parliez de l'homme créé à l'image de Dieu, ce qui est un fondement de la foi chrétienne et la foi enfin judéo-chrétienne et de la Bible. Mais c'est vrai qu'aussi nous ne cessons de créer un Dieu à notre image et ça s'appelle une idole. Et je crois qu'à travers cette réflexion, même cette expérience de pensée extraterrestre, au final, c'est ça qui nous est posé. C'est-à-dire que et finalement, quelle image moi personnellement, vous voyez, je suis pas en train de faire des grandes théories. Quelle image moi-même je me construis en permanence de Dieu, parce que j'ai bien besoin de cela. J'ai quand même besoin de me représenter Dieu.
Et vous créez quelle image, si ce n'est pas indiscret ?
Oh ben moi, je crée des images à partir de celles dont je dispose déjà immédiatement autour de moi, à travers la tradition chrétienne. Ce Dieu Trinité avec ce père bien barbu, qui est en plus un mec, enfin bon, tout ce qu'on voyait, ce que je veux dire. Bon ben, c'est vrai que je sais bien au fond de moi-même, quand je lis la Bible, que cette image, elle est quand même que partielle, parce que la Bible elle-même parle d'un Dieu qui a des entrailles de mer. Donc, le bon Dieu barbu, cette image est elle-même détruite ou mise en question par la Bible. Donc, ben, il ne faut pas avoir peur de le faire aussi moi-même dans mon quotidien. Ça ne veut pas dire que je me mets en permanence en question, mais être capable de toujours prendre des distances. Moi, une de mes conclusions, enfin, dans ce petit chemin que je partage dans ce livre, c'est ce chemin de réflexion, c'est au final, c'est toujours la même chose. C'est un chemin où Dieu peut se révéler, ou en tout cas, on peut approcher un peu plus de ce que peut être Dieu à travers, en détruisant une fois de plus des images que l'on peut nous-mêmes construire de lui. Ça reste quand même l'extra-extraterrestre.
Turbulence dans l'univers, Dieu, les extraterrestres et nous, c'est le livre que vous publiez, Jacques Arnoux.
Et Dieu dans tout ça ?
De quelle planète es-tu ? Tu viens donc d'une autre planète ? Mais il ne me répondit pas. Il hochait la tête doucement tout en regardant mon avion. C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin.
Pascal Claude, sur la première.
Dans votre livre, Jacques Arnoux, vous imaginez que nous ne sommes plus seuls dans l'univers. À partir de là, vous revisitez une partie de la Bible, une partie de ce qu'est la foi chrétienne. Alors ouvrons la Bible, ouvrons le livre de la Genèse et arrêtons-nous sur ces premiers mots. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et vous estimez qu'il y a grande nécessité, peut-être urgence pour la tradition chrétienne à revisiter le dogme de la création sous l'éclairage expliqué expliquez-vous de la connaissance avérée ou même hypothétique que nous avons désormais de l'univers? Comment faut-il donc décoder le message de la Genèse aujourd'hui, Jacques Arnoux?
Je ne sais pas s'il s'agit de décoder, en tout cas il s'agit déjà de le prendre au sérieux. Dans la foi chrétienne, comme vous le rappelez à l'instant, c'est la foi au Dieu créateur et le fait que la réalité dans laquelle nous vivons est créée par Dieu qui constitue le premier article du credo. La difficulté, c'est que cette réalité, elle nous est tellement immédiate. Je peux la toucher du doigt, enfin c'est moi-même, je suis en train de me palper, j'existe, j'ai un micro devant moi, il existe, et il fonctionne d'ailleurs, nous nous entendons, nous parlons,
c'est magique, hein,
c'est magique. Mais c'est évident, la réalité nous est parfaitement évidente, donc ensuite c'est facile, cette réalité elle est créée par Dieu, et puis passons à la suite qui est bien plus sérieux, qui est bien plus difficile, la foi en la résurrection des morts, alors ça j'ai jamais rencontré un ressuscité, donc c'est beaucoup plus difficile d'y croire. Donc,
mais alors elle est créée par qui réalité qui est autour de vous, qui est autour de nous?
Non mais alors justement, c'est-à-dire qu'il faut se rendre compte, et pour moi c'est une chose qui est vraiment un enjeu et un défi quotidien, cette réalité ça veut dire quoi si je la confesse créée par Dieu? Et en permanence, c'est à la fois une question qui m'habite, une question qui habite bien des conversations avec ceux qui m'entourent ou ceux que je rencontre. C'est pas si simple parce que précisément, la science nous dit, attendez, la réalité, je vais vous expliquer de quoi elle est faite, d'où elle vient. D'où elle vient? En Belgique, vous avez quand même quelqu'un qui a travaillé. Les chanoines Lemaître, Georges Lemaître, nous a proposé des explications de la théorie de l'atome primitif. Eh bien, le monde dans lequel nous sommes vient d'un atome primitif. Donc voilà, c'est suffisant. Pourquoi se poser la question de Dieu? Et on veut dire, on peut exclure Dieu. Alors, ça veut dire quoi? Que cette réalité est autosuffisante. Donc, croire en un Dieu créateur, pour moi, est un défi majeur pour les croyants. Alors, je dis bien croire, c'est-à-dire que ça reste quelque chose pour lequel je n'ai pas nécessairement toutes les preuves, mais quelque chose qui, à partir du moment où je l'avance, cette croyance, cette foi, peut aussi avoir bien des conséquences dans ma manière de vivre. J'ai travaillé ces questions dans le domaine de l'évolution et ces choses-là. Si effectivement cette réalité a quelque chose à voir avec Dieu, déjà, mon attitude à son égard doit peut-être changer. Parce que si je mets seulement c'est l'homme qui est créé à l'image de Dieu, donc c'est l'homme seul qui a une certaine valeur, et puis peut-être un certain type d'être humain et pas d'autres. Il y a eu des tas de débats dans l'histoire du christianisme là-dessus, qui font que certains êtres humains ont pu être exclus de la communauté humaine, alors que là, Dieu est aussi leur créateur. Mais mon regard doit changer à leur égard, nécessairement. Alors, est-ce que c'est pour autant tout devient relatif? Tout devient et donc indifférent. Pas du tout. C'est pour que chaque élément aussi ait une forme de singularité. Je ne sais pas quelle est la relation qu'entretient Dieu avec chacune de ses créatures, surtout si elles sont très loin de moi et qu'elles habitent à 14 années-lumière. Mais ce n'est pas pour autant que je vais perdre, moi, ma singularité de créature. Et ça, pour moi, c'est peut-être une des premières conséquences de cette expérience de pensée. Ce n'est pas parce que Dieu aurait créé des extraterrestres, si je pose l'hypothèse, que brutalement, moi, je disparais. J'existe toujours. J'existe dans ma singularité. Et chacun autour de moi est un être singulier. Et ça, je crois qu'on a nécessairement besoin de nous le rappeler en permanence parce que ça entraîne un immense respect des uns par rapport aux autres, non seulement entre êtres humains, mais aussi par rapport aux autres créatures qui sont autour de moi.
Il nous faut encore aborder ensemble la question de l'incarnation. En préparant cet entretien, je suis tombé sur les propos tenus en 2015 par José Funès, le directeur de l'Observatoire astronomique du Vatican. Il dit ceci: l'incarnation du Fils de Dieu est un événement unique dans l'histoire de l'humanité, de l'univers. Qu'est-ce que vous lui répondriez s'il était face à vous là maintenant?
Eh bien, que je suis d'accord avec lui, en mettant plutôt qu'unique, parce que le côté unique, la difficulté c'est que, vous voyez, on est vite ensuite amené à dire, il est unique, on retrouve dans l'anthropocentrisme, et puis il n'y a rien d'autre à côté. Il est singulier. Alors, dans l'histoire de l'humanité d'ailleurs, précise-t-il. C'est vrai que là...
De l'univers, ajoute-t-il.
Alors, oui, il est unique, dans ce sens-là, il est singulier, mais j'allais dire, bien des théologiens ont dit, mais pourquoi pas ailleurs? On n'en sait rien, on n'y est pas. Donc là, ça relève tout à fait de ce que je viens de dire. Nous avons, nous, comme êtres humains, la chance qu'au cœur de notre espèce humaine, pour les croyants en tout cas, il s'est passé quelque chose de tout à fait singulier, qui est cette incarnation, Dieu fait homme. c'est un mystère total. Je veux dire, moi, comment Dieu peut-il... En tout cas, c'est ce que les chrétiens confessent. Mais ça n'exclut pas du tout la possibilité que, une fois encore, au nom de ce Dieu créateur, ça puisse se passer ailleurs. Je ne dis pas que ça s'est passé ailleurs. Je veux dire simplement, ça ne peut pas l'exclure. Quand je vous parlais tout à l'heure de l'évêque de Paris, Étienne Tempier, en 1277, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a introduit un principe théologique que je trouve majeur. C'est-à-dire que nous, les êtres humains, nous n'avons pas à dire ce que Dieu doit faire ou ne doit pas faire. Nous avons simplement à dire « je crois ou je ne crois pas » à un certain nombre de propositions qu'il peut nous faire à travers la révélation. Et l'une de ces propositions, c'est que Dieu s'incarne. Dieu prend chair humaine et ça a toute une suite de conséquences. Et ça, c'est un événement singulier. Ce qui se passe ailleurs, moi je n'en sais rien aujourd'hui.
Turbulence dans l'univers, Dieu, les extraterrestres et nous, ça vient tout juste de sortir. Merci Jacques Arnoux d'avoir été des nôtres ce soir.
Merci à vous.
Bonne soirée. C'était « Et Dieu dans tout ça ». Merci d'avoir été là. Ce numéro, vous le réécoutez quand ça vous chante sur notre plateforme Ovio. Et si vous souhaitez nous faire part de vos remarques et commentaires, nous vous lisons sur les réseaux sociaux quand vous utilisez le mot-clé, le hashtag « Et Dieu dans tout ça ». Et aussi, nous attendons vos messages sur le site lapremière.be. À suivre sur La Première, la météo, les infos de 18h et Sport Première. Passez une belle fin de week-end.
Le premier extraterrestre, c'est d'abord mon voisin. Comme dit Jean-Claude Carrière, des extraterrestres, je n'en ai pas encore rencontré. Des terrestres extra, oui.
La première,
17h30, 18h le dimanche.
Et Dieu dans tout ça,
Pascal Claude.